Nous en sommes au troisième jour de la retraite. Et nous allons aujourd'hui poursuivre notre méditation autour des quatre nobles vérités. J'ai pensé le faire en lisant d'abord le Pabbatopama Sutta, l'un des sermons du Bouddha. Ce sera la porte d'entrée de notre méditation. Le Sutta se lit comme suit. Un jour, le Bouddha reçoit la visite du grand roi Pasenadi de Kosala. Le Bouddha est déjà un sage renommé et le roi lui rend visite pour lui faire part de ses préoccupations et recevoir des conseils. Après les salutations d'usage, le roi Pasenadi s'assoit à côté du Bouddha à l'ombre d'un arbre. Ne sachant trop comment s'adresser à lui, le roi va droit au but. « J'ai conquis un vaste territoire, maître Gautama, et je le protège, mais je suis agité. Je suis obsédé par le pouvoir et l'autorité. J'ai accès à tous les plaisirs imaginables et même plus, mais ce n'est jamais suffisant. Comment puis-je trouver la paix de l'esprit ?» Le Bouddha lui dit alors, « Imaginez, grand roi, qu'un fidèle et loyal messager arrive de l'Est, porteur de graves nouvelles. Il dit avoir vu une immense montagne se précipiter vers nous, écrasant toutes les créatures sur son passage. Il vous demande ce qu'il faut faire. » Le roi Pasenadi, confus, regarde le Bouddha. Avant qu'il ne puisse répondre, ce dernier poursuit en disant « Imaginez, grand roi, qu'au moment où cet homme vous annonce la nouvelle, un autre messager arrive de l'Ouest. Ce deuxième homme dit à son tour avoir vu une immense montagne venir vers nous, écrasant tout sur son passage. Lui aussi vous demande ce qu'il faut faire. Et pendant que ce deuxième homme parle, un autre messager arrive du nord et un autre du sud. Ces deux hommes rapportent également qu'une grande montagne se rapproche de nous, anéantissant tout ce qui vit sur son passage. Ayant appris cette calamité, grand roi, cette fin imminente, qu'allez-vous faire? Quelle est la meilleure conduite à tenir? Le roi Pasenadi, réputé pour être un grand stratège, médite un instant sur les paroles du Bouddha. Finalement, il répond, « Maître Gautama, il n'y a aucune action bénéfique devant un tel événement. Il ne me reste plus qu'à cultiver la sagesse et les actions salutaires. S'il y a une autre existence après la mort, et qu'elle soit déterminée par les actes de cette vie, je dois agir avec sagesse et intégrité, pendant qu'il en est encore temps. Cela au moins pourrait être bénéfique. » À ces mots, le Bouddha se tourne vers le roi. Il pose sa main sur son épaule et dit, « Je suis votre messager de l'Est, Pasenadi, et aussi celui de l'Ouest, du Nord et du Sud. Voici les nouvelles que je vous apporte. La vieillesse et la mort vous rattrapent de toutes parts. À l'heure même où nous parlons, la montagne approche, grand roi. Que convient-il de faire ?» Le roi baisse les yeux, incapable de croiser le regard du Bouddha. Il répond, « C'est exactement ce que je disais, maître Gautama. Face à la mort, la seule bonne chose à faire est de développer la sagesse et les actions justes. Ma compréhension et mes actions sont mes dernières ressources. Tu n'as jamais d'autres ressources, » dit alors le Bouddha. Pendant un moment, le roi et le Bouddha restent silencieux à l'ombre de l'arbre. Même dans la chaleur du midi, le roi a froid, exposé. C'est lui qui brise le silence. Maître Gautama, dit le roi, c'est ma fierté et mon plaisir de m'engager dans la bataille avec des éléphants, des chars, de la cavalerie et de l'infanterie. Vous le savez, tous reconnaissent que je suis un grand conquérant. Mais comme mon armée et ma stratégie me semblent ridicules, maintenant face à la mort, et mes sages conseillers aussi, avec leurs esprits aiguisés, leurs paroles rusées, ils ne peuvent m'aider à repousser cette montagne qui anéantit tout. Mon trésor est rempli de richesses du monde entier, pillées dans les ruines de mes ennemis. Mais que peut m'apporter tout cela quand la mort est à la porte? Comme il est étrange qu'en vous parlant, je ne trouve rien de plus précieux que la sagesse et l'intégrité. Et comme il est étrange que moi, Seigneur Passenadi, je me sente comme un mendiant devant vous, demandant l'aumône, car vous êtes l'homme le plus riche que j'ai jamais rencontré, Maître Gautama. La troisième noble vérité nous dit qu'il y a une fin à la souffrance et l'insatisfaction. La douleur, l'insatisfaction, la souffrance, les vexations et l'humiliation sont indissociables de la vie. C'est la première noble vérité. La deuxième noble vérité nous apprend que l'origine de notre peine et de notre mal de vivre est notre attachement au désir. Nous voulons être quelque chose dans le monde. Nous sommes avides d'exister. Et nous repoussons avec aversion tout ce qui s'y oppose. Voilà pourquoi nous souffrons. Et la troisième noble vérité nous dit qu'il y a une fin à la souffrance. Nous sommes toutes et tous dans la même situation que le Bouddha et le roi Passenadi. Une immense montagne se referme sur nous et elle anéantit tout. La vieillesse et la mort nous rattrapent de toutes parts. Nous ne pouvons y échapper. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tous les parfums et toutes les saveurs du monde, tout ce que nous pensons, imaginons ou créons, tout ce que nous ressentons, tous nos désirs, toutes les expériences auxquelles nous nous attachons et celles que nous rejetons, une immense montagne se referme sur nous et elle ne laissera rien derrière elle. Tout sera balayé. Rien ne peut nous épargner l'impermanence de l'existence. Et pourtant, si on le voit clairement, si l'on entend bien ce qui est dit ici, c'est la libération. D'instant en instant, tout apparaît et disparaît. Le remède à l'attachement, c'est l'impermanence. Nous souffrons et nous nous agitons en vain dans cette vie parce que nous essayons désespérément de trouver refuge quelque part. Et nous voulons que ce refuge soit impénétrable et durable. Nous voulons trouver refuge dans ce qui est par nature appelé à apparaître et disparaître. Revenons ici pendant quelques instants. Prenez le temps de respirer lentement. Laissez la gravité tirer votre respiration toujours plus profondément vers la terre. Voyez-le, il n'y a aucun refuge dans votre respiration. Elle va et vient sans cesse et se libère d'instant en instant. De la même manière, il n'y a nulle part où vous réfugiez dans vos pensées ou dans les mots que vous entendez. Vos pensées et ces mots disparaissent sans cesse. les sensations et les émotions que vous ressentez sont aussi comme des fantômes. Votre histoire personnelle elle-même n'est plus qu'un souvenir qui s'effacera bientôt. Où pourriez-vous construire le moindre abri en ce monde? Le maître Rinzai disait autrefois à ses moines, vous qui êtes si vertueux, voyez bien que ce monde manque de tranquillité et qu'il est pareil à une maison en feu. Ce n'est pas un endroit où l'on peut rester longtemps. Le démon de l'impermanence distribue la mort d'instant en instant, sans faire aucune distinction entre nobles et paysans, entre jeunes et vieux. Et il continuait en disant, « Mais si vous voyez clairement que les 10 000 choses du monde n'ont aucune existence permanente, que l'esprit est comme un fantôme, qu'il n'existe même aucun grain de poussière et pas la moindre petite chose, et que partout, tout est pur et sans tache, alors c'est là le Bouddha. » La fin de la souffrance, c'est comme voir que la pluie n'a aucune existence séparée. Imaginez un ciel bleu d'été. Il fait plein soleil, pas un nuage à l'horizon. Dans de telles conditions, comment expliquez-vous qu'il n'y ait aucune pluie? Vous me répondrez certainement que les conditions pour que la pluie apparaisse ne sont tout simplement pas réunies lorsque le ciel est bleu, que le soleil brille et qu'il n'y a aucun nuage. Et bien sûr, vous avez raison. La pluie n'apparaît que lorsque certaines conditions sont réunies. C'est pourquoi l'on dit que l'existence de la pluie est conditionnée. Elle dépend de certaines conditions et n'existe jamais seule par elle-même. En l'absence de nuages, par exemple, la pluie n'apparaît jamais. La pluie a besoin des nuages, des océans, des vents et de la terre entière pour apparaître. Lorsque Maître Rinzai dit à ses moines que les 10 000 choses du monde n'ont aucune existence permanente, c'est comme s'il leur parlait de la pluie. Tout comme la pluie existe seulement lorsque certaines conditions sont réunies, les 10 000 choses du monde sont elles aussi dépendantes et conditionnées. Elles n'ont aucune existence séparée. Elles n'existent jamais seules. Voilà pourquoi l'on dit qu'elles sont vides. Elles interexistent avec tout ce qui est. Rappelez-vous ici les mots du Prajnaparamita. Les dharmas aussi sont vides. Tous sont le vide originel. Rien ne naît ou meurt. Rien ne ternit ou brille. Rien qui grandit ou qui décroît. Le vide ne contient ni forme, ni sentiment, pensée ou choix. Et le chant continue en effaçant aussi le corps, la conscience, les sens, l'ignorance, la naissance et mort, la douleur, la connaissance et la sagesse. Et il se termine par ces mots. Ainsi le Bodhisattva ne s'attache à rien de rien, libéré de toutes les illusions et de la souffrance qu'elles engendrent. La fin de la souffrance, c'est voir que tout comme il en va de la pluie et de toutes les autres choses du monde, nous apparaissons et disparaissons. C'est là le grand mystère de la vie et mort. Nous n'avons aucune existence séparée ou indépendante. C'est là cependant notre plus grande illusion, celle à laquelle nous tenons le plus. Nous fermons le poing sur le vide avec l'espoir d'y saisir quelque chose. Et nous souffrons de voir que nos mains restent toujours vides. C'est l'illusion du moi qui cause notre peine, nous dit Maître Aquin. Cette illusion est notre premier et notre dernier refuge. Nous y sommes profondément attachés. Pour la plupart d'entre nous, il nous faudra traverser le feu 1000 fois avant de voir cet attachement se dissiper. Ayons simplement confiance. Un jour viendra où nous ouvrirons les mains et notre vraie nature éclairera toute notre vie. La quatrième noble vérité est celle du noble chemin ou du sentier octuple qui mène hors de la souffrance. Ici, au Centre Zen de Montréal, nous avons les 14 rappels. Et comme vous le savez, nous en faisons toujours la lecture lors de la cérémonie d'ouverture au début de nos retraites. Ces 14 rappels résument d'une très belle façon la quatrième noble vérité que l'on appelle aussi le sentier octuple. Je vous encourage à méditer ces rappels et à vous efforcer de les appliquer dans votre vie quotidienne. Inutile d'en faire des devoirs ou des obligations morales. Voyez-les simplement pour ce qu'ils sont, des rappels. Ils nous aident à ne pas perdre de vue ce qui nous tient à cœur. Il nous rappelle à nous-mêmes, pour ainsi dire. Il nous aide à développer et cultiver, envers nous-mêmes et avec les autres, des attitudes de respect, d'honnêteté et de bienveillance. Ces rappels sont des guides précieux. Dès que l'on s'efforce de les appliquer dans notre vie quotidienne, en les laissant guider nos actions, ils nous aident à dépasser nos conditionnements habituels et à devenir plus sensibles à la souffrance que nos paroles et nos actions peuvent provoquer autant en nous-mêmes que chez les autres. Dans son sermon sur les 4 nobles vérités, le Bouddha parle de la 4e noble vérité en disant « Quelle est la noble vérité qui mène à la cessation de la souffrance ?» Elle n'est autre que le noble chemin octuple, c'est-à-dire la compréhension juste, l'intention juste, la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence juste, l'effort juste, l'attention juste et la concentration juste. Cette 4e noble vérité nous incite à tourner notre vie entière vers la pratique, en cultivant ce que le roi Pasenadi appelait la sagesse, l'intégrité et les actions salutaires. Le maître Aquin disait « Vraiment méditer, qu'est-ce que cela veut dire? » Cela signifie faire en sorte que tout, éternuer, avaler, saluer avec la main, se déplacer, rester immobile, parler, agir, le bien ou le mal, la prospérité et la honte, perdre et gagner, c'est faire en sorte que tout cela devienne un seul koan. Même lorsque nous errons sur les chemins les plus sombres de notre vie, ces chemins eux-mêmes sont la terre de pureté dont parle Maître Aquin dans son chant du Zazen. Ne rien refuser, ne rien retenir. Il faut avoir le désir de la présence au-delà de toutes les autres choses, écrit M. Lowe dans l'un de ses textes. Et il poursuit en disant « Soyez présent, soyez présent. La seule façon de pratiquer sur votre natte et dans votre vie quotidienne, c'est d'être présent. Et il faut le souhaiter, souhaiter la présence au-delà de toutes les autres choses. » la quatrième noble vérité, nous invite à être attentifs à la réalité du moment présent. C'est une pratique très immédiate qui regarde les choses telles qu'elles sont, ici et maintenant. Elle ne demande rien d'autre que ce qui est, et elle n'en retient rien. Cette quatrième noble vérité est une longue respiration.